Toujours est Ascolo pour nous accompagner dans cette édition de Remue Ménage du mercredi 16 novembre. Nous sommes en compagnie d'Ariane Exjaquet, responsable du restaurant La Pleine Lune, 614 bis avenue du Mail à Genève. Un restaurant pas tout à fait comme les autres, mais où je peux vous le garantir parce que j'ai essayé. On y mange très très bien et on est accueillis de façon extrêmement chaleureuse. Alors Ariane, peut-être, je crois qu'il faut rentrer dans l'histoire de la pleine lune. Hein. On essaye de faire des généralités, puis c'est difficile parce qu'on a envie de se raccrocher sans arrêt à la réalité d'un exemple concret. Alors venons-en très concrètement à l'expérience de la pleine lune. Comment est venue l'idée qu'une des structures de trajet d'accueil pour ces gens qui ont besoin d'une aide particulière pour s'intégrer, se réintégrer à une vie plus collective, communautaire, comment est venue l'idée de choisir le restaurant? Et vous avez été chargée de ça et vous n'êtes pas restauratrice. Alors comment aussi, en tant que, quand on est travailleuse sociale ou assistante sociale, on devient tout à coup restauratrice?
Ah, alors maintenant je suis restauratrice avec une formation d'assistante sociale, c'est vrai. Mais je crois que c'est important d'appuyer le fait que dans ces structures, on essaie d'être donc dans le métier. Pourquoi ce restaurant? D'abord, il existe déjà un restaurant qui s'appelle le Croque-Not, qui se trouve à Lancy et qui fait partie des dispositifs de travail de trajet. C'est un restaurant où l'on mange merveilleusement bien, qui accueille comme nous des personnes qui ont été des accidentés de la vie. La pleine lune, pourquoi la pleine lune? Il y a peut-être une histoire qui est rapidement évoquée, c'est que la pleine lune est tout proche de Saint-Boniface, qui est une paroisse et qui est aussi une résidence d'étudiants. Et les personnes qui avaient ce local et la cuisine et le restaurant, qui n'était pas un restaurant mais qui était une cafétéria, ont demandé à l'association de trajet si cela les intéressait de reprendre cette cafétéria et d'en faire un bistrot. Pourquoi un bistrot? Parce que je pense que c'est un lieu de vie par excellence et que c'est un lieu qui peut proposer plusieurs possibilités de travail. C'est-à-dire pour quelqu'un qui... soit pour quelqu'un qui a déjà travaillé dans la restauration, il y a les postes de cuisine, d'aide de cuisine derrière, il y a les postes de service, de bar, de nettoyage. Il y a plusieurs postes possibles, donc ça offre toute un éventail d'emplois possibles. Ensuite, parce qu'effectivement, un bistrot, c'est la vie, c'est le centre d'un moment dans un quartier. Ça peut être à midi, à le soir ou un café à 10h du matin. Ça fait partie, c'est quelque chose qui est très intérieur et extérieur. Les gens rentrent et sortent. Et c'est un lieu très intéressant pour les travailleurs qui sont intéressés par ce travail-là, bien sûr. Parce que comment est-ce que les gens arrivent chez nous? Ils sont d'abord accueillis par l'association et puis selon leurs envies, ils disent « ben oui, moi ça m'intéresserait de venir travailler à la pleine lune ». Alors c'est comme ça un peu qu'on a ouvert ce restaurant à la demande de Saint-Boniface, de l'association Saint-Boniface, et nous sommes donc locataires de ces personnes. Et il y a déjà un lien, si vous voulez, avec les étudiants qui sont dans la résidence. Donc déjà là, et dans les immeubles qui sont au-dessus, les gens viennent manger. Il y a déjà des liens qui se créent. Et c'est comme ça que l'idée est venue. Donc on a amélioré la cafétéria, on a ouvert sur l'extérieur et c'est devenu la pleine lune.
Alors ça n'a rien d'une cafétéria, chers auditrices et auditeurs, je vous rassure tout de suite, vraiment, c'est difficile d'employer le mot cafétéria aujourd'hui pour parler de la pleine lune. Mais Ariane, un restaurant est quand même aussi une chose extrêmement exigeante pour quelqu'un qui souffre d'isolement, de marginalisation, de difficulté à aller vers l'autre, parce que non seulement il y a les contraintes de tout travail, des horaires, un travail régulier, d'être présent, de ne pas venir chaque fois qu'on peut ou qu'on a le courage de le faire, mais il y a en plus le contact avec une clientèle, ce qui n'est pas rien, je veux dire, c'est pas tout à fait comme un autre travail professionnel où on accomplit sa tâche, si jamais on peut pas la faire, il n'y a personne qui réagit concrètement en face de soi. Hein. Quand il y a un problème avec un client, il est là en plus, en face de soi.
Oui.
Une autre exigence très grande.
C'est une grande exigence et c'est vrai que, moi, c'est intéressant à raconter. On a eu donc, je vous disais tout à l'heure qu'on avait des professionnels et puis des travailleurs qui ne sont pas salariés. Hein.
Alors précisons juste les professionnels. C'est vous en tant que responsable, voilà. Donc, qui étiez assistante sociale et qui êtes devenue restauratrice, vous nous en reparlerez tout à l'heure. Vous avez eu une collègue qui assume avec vous ce tâche-là.
Alors, j'ai une collègue qui assume la responsabilité commerciale, c'est-à-dire que c'est elle qui fait les achats, les comptes, la comptabilité, la caisse et ces choses-là, qui prévoit avec un chef de cuisine que nous avons aussi les menus et les choses comme ça. Et donc, nous avons deux cuisiniers, un chef de cuisine et son second. Et puis deux serveurs, parce qu'il faut bien que quelqu'un assume le 7h du matin, 23h. Donc nous avons deux personnes, une qui fait le matin, une qui fait le soir.
Ça, c'est l'équipe de professionnels.
Ça, c'est l'équipe de professionnels.
Et à côté de cela, donc les travailleurs et travailleuses qui viennent...
Alors selon leur rythme, selon leurs envies et nos exigences, hein, c'est toujours un travail qu'on fait à deux. Et qui viennent, alors c'est vrai que ces personnes travaillent souvent... forcément moins d'heures, donc il y en a plus. Parce qu'il y en a qui viennent 2 heures, il y en a qui viennent 4 heures, il y en a qui viennent 6 heures. Ça dépend des possibilités et des envies de ces personnes. Quelquefois, c'est très difficile pour elles d'être confrontées à la clientèle. Et ça, c'est à nous de voir avec elles. Je parle de celles qui sont en service et en bar. Il y en a peu qui sont dans le service pour l'instant, mais il y en a qui sont en train de se former. Nous avons plus de personnes en cuisine. Pourquoi ? Parce que la cuisine, c'est une équipe. C'est derrière. On peut y vivre en équipe sans que ce soit visible pour l'extérieur. Et ça, c'est aux cuisiniers de gérer leur équipe. Mais c'est vrai que c'est souvent difficile, mais il y a moins de contact avec la clientèle. Le contact avec la clientèle, c'est vraiment les personnes qui sont derrière le bar. Et c'est souvent difficile pour elles. Mais moi, je vous donne un exemple d'une personne qui était professionnelle chez nous et qui nous a quittés parce qu'elle s'est tellement attachée aux travailleurs que nous avons accueillis qu'elle ne pouvait plus voir les clients. Alors, ça n'allait plus. Il y avait quelque chose qui ne jouait plus. C'est pour vous dire que les problèmes ne sont pas toujours là où on l'imagine. C'est souvent les professionnels qui prennent trop à cœur leur travail avec les travailleurs de la pleine lune et qui du coup s'y intéressent tellement qu'elles n'arrivent plus à donner à la clientèle alors qu'on doit pouvoir accueillir la clientèle comme dans n'importe quel bistrot avec chaleur et avec enthousiasme.
Vous nous disiez tout à l'heure, Ariane Jacquet, que l'essentiel du projet de trajet, c'est de placer vraiment les personnes en difficulté au cœur du travail qu'elles font sur elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles sont aussi elles-mêmes leur propre moteur. Elles doivent devenir leur propre moteur. Je ne sais pas si je reprends convenablement ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Très concrètement, comment ça se... Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples des gens qui ont travaillé ou qui travaillent toujours, sans pour autant les nommer, mais qu'on se rende compte de ce que ça veut dire, peut-être comme pas à franchir, quand on décide un jour, oui, je suis d'accord, je vais aller travailler à la pleine lune, je vais faire cette démarche-là, mais qu'on se rend compte des pas, des difficultés que doivent surmonter ces personnes, par exemple.
Alors là, je dirais que nous travaillons sur du velours et qu'il faut que nous soyons très humbles. Parce que... très souvent, ces personnes n'osent pas dire. Tout d'un coup, elles sont confrontées à une difficulté professionnelle et elles n'osent pas le dire. Et c'est à nous d'essayer de comprendre et de voir ce qui se passe. Et là, je crois qu'il faut qu'on soit très attentif. Et nous ne le sommes pas toujours parce qu'on est pris dans le service, dans les repas, de la personne qui est derrière le bar qui tout d'un coup est prise de panique ou a un stress trop grand et qu'on soit très attentif de pouvoir entendre ça et de le revoir avec elle, de pouvoir en parler. Et c'est vrai que quand les personnes ont une difficulté tout d'un coup au milieu du... Ce qui arrive rarement, hein, c'est plutôt les choses qui se traduisent après. Il faut qu'on puisse dire, maintenant vous prenez une pause, vous allez fumer une cigarette derrière le bar, puis on va reprendre ça tout à l'heure avec vous, parce qu'il y a des difficultés réelles. Les personnes qui travaillent entre midi et 2 heures, ou le soir, au moment du service, n'importe quel serveur vous dira, mais c'est un stress.
Le coup de feu, on dit d'ailleurs.
C'est le coup de feu, c'est le coup de feu. Et nous sommes toujours dans un coup de feu au moment des heures de repas, et ça, il faut bien qu'on soit attentif, que les personnes qui travaillent avec nous sont fragiles, et qu'elle nous renvoie à notre propre stress en disant « mais votre stress arrive sur moi aussi ». Et nous sommes souvent nous générons ce stress que nous transmettons. Nous essayons de ne pas le faire, mais quelquefois nous le faisons. Donc ça nous demande d'avoir une attitude très remise en question sur nous permanente.
Mais comment est-ce possible, Ariane, d'arriver à la fois à tenir les exigences d'une entreprise commerciale telle qu'un restaurant et en même temps à accomplir ce travail d'accompagnement et de soutien à des personnes en difficulté? Parce que vous devez faire ces deux choses-là.
Absolument.
Et ça me paraît difficilement compatible, personnellement, comme ça, à vue de nez, à vous entendre parler.
Alors, je dirais que nous ne sommes pas dans la perfection, parce que c'est vrai que c'est difficilement compatible. Moi, je pense qu'il y a des moments où c'est tout à fait assumable et d'autres pas. Je peux vous donner des exemples de moments où j'avais deux personnes, des travailleurs de trajet, sur lesquels je comptais un jour où j'avais 80 personnes qui étaient réservées dans le restaurant. Et je me suis retrouvée seule avec une aide que j'avais engagée pour les accueillir, parce que les deux autres personnes n'étaient pas venues, avaient oublié, s'étaient endormies. Et ça, c'est une réalité. Donc, nous devons beaucoup jongler. Il faut que nous fassions preuve de beaucoup de disponibilité, parce que nous avons un moteur en nous. Le travail que, enfin, moi je peux ne parler que pour moi, je ne peux pas parler pour mes collègues, mais le travail que je le fais avec énormément de cœur et j'aime beaucoup ce travail. Je trouve qu'il a tout son sens. Mais souvent, je me repose les questions. Parce que quand je me retrouve avec 80 personnes dans une salle qui attendent un repas et que je suis toute seule avec une autre personne pour les servir, mais je suis prise d'une panique profonde.
Et en même temps, vous vous dites peut-être je devrais prendre le temps pour téléphoner aux deux personnes qui devaient venir, pour savoir pourquoi elles ne sont pas venues. Donc vous êtes vraiment déchirée entre vos deux fonctions.
C'est ce que j'ai fait d'ailleurs, j'ai téléphoné aux deux personnes qui sont venues, parce qu'elles étaient restées endormies. Alors je leur ai passé un savon. Mais je veux dire, ça arrive aussi aux professionnels. C'est pas quelque chose de typique. Rien de ce que je vous dis n'est typique d'une personne qui est fragile. Il y a peut-être plus de fragilité, mais moi, il m'arrive des choses qui se ressemblent avec des professionnels.
Mais je parlais plutôt de votre fonction là, Ariane. Alors là, difficile. Il est rare quand même qu'une seule et même personne ait deux fonctions aussi différentes à mener, en fait, avec une seule énergie qui est la vôtre et qui paraît immense, effectivement.
Alors là, toute la question que vous posez, c'est une question centrale. Comment nous engageons les professionnels qui vont travailler avec nous et comment on va pouvoir travailler ensemble et elles avec nous dans cette ambivalence dont vous parlez, c'est-à-dire à la fois être attentif aux clients et à la fois accueillir des personnes qui ne sont pas forcément dans le coup pour travailler avec nous. Et là, je crois que nous avons un travail important à accomplir qui se fait. J'ai envie de dire que les choses se font, pas toujours de manière orthodoxe, mais ça finit par se faire. Mais c'est vrai que je demande beaucoup à cette équipe de professionnels. Et je pense que là, on est un peu au centre d'une problématique, d'une actualité. J'engage des serveurs et des cuisiniers, je leur demande quand je dis « je », c'est « nous », parce que c'est bien sûr l'association qui engage, et on va leur demander un travail qui est un travail de serveur, absolument, mais en même temps, je vais demander « attention, soyez attentifs à la personne qui travaille avec vous, elle est en apprentissage ». Et ça va demander de la patience, ça va demander d'en parler, ça va demander de prendre un verre autour d'une table, peut-être après le moment de stress, pour dire qu'est-ce qui ne va pas? Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu l'une des personnes qui travaille avec nous, le professionnel, qui est venu me dire « mais moi, j'en peux plus. Je n'en peux plus. Hier, j'étais stressée parce que cette personne était lente, etc. » Je dis « oui, mais on est tous, c'est vrai. Alors parlons-en. Et puis donnons-nous les moyens que la prochaine fois, je puisse, soit Dominique, ma collègue, soit moi, être là au moment où il y a trop de stress. Essayons de voir ce qu'on peut faire. Il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de règles. »
Les professionnels que vous engagez, Ariane, sont avertis, comme vous venez de le dire, qu'ils vont travailler dans des conditions spéciales. Mais est-ce qu'ils reçoivent un minimum de formation pour assumer cette tâche, ou on compte sur eux comme professionnels de la restauration, et puis voilà.
Je crois que les personnes que nous engageons sont avant tout des personnes qui doivent avoir une certaine sensibilité et un certain regard attentif sur l'autre. À part ça, ils sont engagés comme professionnels, cuisiniers, chefs de cuisine, serveurs. C'est très difficile de les former. Nous sommes en train d'y réfléchir, parce que je pense qu'une sensibilisation est nécessaire. L'association réunit son personnel de temps en temps pour reparler de nos objectifs et nous sensibiliser. Mais je pense qu'on peut encore aller plus loin. Ça, c'est une question qui est en suspens.
Vous parliez tout à l'heure, Ariane, j'ai envie qu'on revienne juste un tout petit peu à cela, des difficultés qu'ont les gens à tenir un rythme d'exigence. Je vous demandais d'essayer de me faire un peu le portrait de quelqu'un. Je reviens à ce problème qu'on essaye de bien comprendre. Est-ce que, par exemple, quelqu'un vient au début peut-être qu'une à deux heures par semaine, puis après Qu'est-ce qui fait que le jour, un jour plus tard, quelques temps plus tard, il viendra peut-être 3 fois par semaine, puis qu'on peut revenir en arrière complètement? Ça se discute, vous avez des moments de rencontre, vous collaborez avec d'autres associations qui vous permettent de faire cette évaluation avec la personne que vous suivez, que vous aidez?
Alors là, je crois qu'on va parler des relais et des réseaux qui sont très, très importants, effectivement. Parce que les personnes que nous accueillons à la Plénule, les travailleurs, ont pratiquement toutes, à de très rares exceptions près, un réseau, je dirais, médico-social. Et effectivement, il y a quelques associations à Genève qui nous interpellent en disant, ben voilà, on a une personne qui aimerait travailler chez vous, qu'est-ce que vous en pensez? Donc il y a déjà un préalable de discussion avec la personne toujours, puisqu'elle est au centre de sa vie et de son histoire, et ses partenaires, ou son réseau social. Et nous avons des personnes qui commencent par travailler 2 heures par semaine pour un peu se mettre dans le bain, voir ce que c'est qu'un restaurant. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît pas? Est-ce que c'est le travail que vous voulez faire? Et puis, on fait régulièrement des évaluations avec les partenaires sociaux de cette personne pour voir comment... Et elle-même, toujours, hein, toujours au centre. On ne fait jamais d'entretien
sans la personne.
Sans la personne. Mmh. Donc, au bout de quelques temps, on dit, bon, ça fait quelques temps que vous êtes là, disons 3 mois, que vous faites vos 2 fois 2 heures. Est-ce que vous avez envie d'aller plus loin? Et c'est souvent elle ou lui qui disent, au fond, est-ce que je pourrais pas aller plus loin? Alors, on réévalue. Et c'est vrai qu'on a besoin, de ce relais pour évaluer. Parce que la personne ne va pas forcément exprimer au travail toujours sa souffrance. Elle va pouvoir la dire à quelqu'un d'autre qui est là pour ça. Je vous donne un exemple. Par exemple, j'ai une personne qui a travaillé chez nous. À un moment donné, elle a voulu travailler plus et on a augmenté son temps de travail. Et puis, au bout de quelques temps, on s'est de nouveau réunis avec les personnes qui sont autour d'elle pour réévaluer. Puis, on s'est rendu compte qu'on voulait aller trop vite, qu'il fallait qu'on réduise peut-être encore un peu son temps de travail, mais qu'elle était contente de son travail, mais que c'était encore trop fort. Et donc, avec les personnes qui étaient autour d'elle et elle, on a pu dire, OK, là, on va trop vite. Reprenons nos cartes. On va augmenter le travail, mais pas autant que ce qu'on avait prévu. Et puis, peut-être pas au moment du stress. On n'utilisait qu'un moment, une fois seulement, le repas de midi, pour qu'elle puisse expérimenter. C'est un lieu d'expérience, la pleine lune. D'expérience professionnelle, mais c'est un lieu d'expérience pour tout le monde. Alors, ça, c'est très important. Ces relais sont très importants. Et ce que j'ai aussi envie d'ajouter, c'est que ces relais nous permettent de travailler avec ces personnes en confiance et en soutien. Ça veut dire qu'une personne qui est trop souffrante, on ne va pas pouvoir l'écouter des heures, on n'est pas les thérapeutes. Et nous allons pouvoir lui dire, attendez, là vous avez un gros problème, moi je vous propose d'en parler à votre thérapeute à votre prochaine séance. Donc je sais qu'il y aura un soutien extérieur. Et ça c'est très important, parce que là on est vraiment à la pleine lune dans le professionnel, on ne peut pas, on n'est pas là, on n'est pas un centre thérapeutique. Et donc nous savons que ces personnes ont des soutiens et on travaille en étroite collaboration avec elles. Est-ce que j'ai répondu?
Oh oui, tout à fait. Et vous le disiez tout à l'heure, on se l'est dit un petit peu au début de l'émission, vous n'allez pas dire aux gens quand ils entrent dans la pleine lune, attendez-vous à voir ce type de personnes-là, ils ne savent pas. Vous me disiez juste tout à l'heure, bon, ils voient association, projet, trajet sur la porte, mais encore faut-il savoir ce que ça veut dire. Donc, est-ce qu'il arrive que les gens vous posent des questions? Parce qu'ils se rendent... Peut-être ils sont confrontés à quelque chose qui leur apparaît différent d'un bistrot habituel, ou qu'ils n'ont pas de raison de s'en rendre compte, et puisque vous disiez la plupart des gens travaillent plutôt en cuisine, par exemple.
Bon, il y a des personnes en cuisine, des personnes derrière le bar. Je crois que de pouvoir vous dire que depuis une année que nous sommes ouverts, nous avons ouvert le 4 octobre 1993, je crois que je ne fais pas d'erreur si je dis que jamais nous n'avons une personne qui nous a dit qu'est-ce que vous faites? Pourquoi cette personne est là? Ça n'en est jamais arrivé. Les gens posent des questions sur l'association Trajet. Ils disent, on a entendu dire que, qu'est-ce que c'est? Mais je crois qu'il n'est jamais arrivé qu'une personne dise, écoutez, il y a quelque chose de bizarre. Non, ça n'arrive pas, parce que ce n'est pas possible que ça arrive. Enfin, c'est possible que ça arrive. C'est possible qu'une personne, tout d'un coup, ait un moment de ça. Mais ça peut aussi m'arriver. Je peux vous dire que ça peut m'arriver. Donc, ça n'est pas arrivé encore aujourd'hui. Et si la personne pose la question, on lui répond. Mais je ne vais pas forcément aller vers la personne, lui dire, bah, écoutez, voilà, on est l'association Trajet, on fait ce travail. Mais ça aussi, c'est peut-être quelque chose qui a évolué en moi, où j'avais tendance au départ à expliquer ce qu'on faisait. Ça partait certainement d'un bon sentiment, mais je me suis rendu compte maintenant que ce n'était pas forcément juste. Maintenant, j'assume que je suis patronne de bistrot et que je suis salariée d'une association, et ça je l'accepte tout à fait, mais que je suis avant tout patronne de bistrot et que je suis là pour servir le client avec des personnes qui sont à côté de moi, mais que je n'ai pas à donner d'explication. Si les gens m'en demandent, je leur en donne, hein, ça c'est évident. Mais les gens vont m'en demander parce que un tel leur a dit que. Et il y en a qui arrivent, ils disent, on nous a dit qu'ici c'était quelque chose de spécial, qu'est-ce que c'est? Je dis, bon ben oui, c'est une association, basta. Et puis s'ils demandent plus, bon je rentre dedans. Et j'essaie d'expliquer le mieux possible.
Donc, j'aurais pas dû dire que la Pleine Lune est un restaurant pas tout à fait comme les autres.
Moi, je pense que c'est un restaurant comme les autres. Hein.
Adieu, mais sans faire d'histoire, vous faire don de ma façon de voir, vous serait-elle indifférente? J'en ai fini avec ces choses qui nous filent le doute et nous rendent moroses, nous conduisent tous à l'overdose, un dernier shoot, une place vacante. Que je disparais, je ne parais pas. Non, je renais ailleurs qu'ici, toujours plus près. Mais que faut-il faire pour enfin devenir quelqu'un? À vivre une vie qui ne ressemble pas à l'idéal qui vibre au fond de moi. Il m'arrive de voir au fil de mes pas des empreintes qui ne sont pas les miennes. Faut-il se vendre pour quelques sous, des promesses de gloire, de puissance surtout, un planning saturé, beaucoup de rendez-vous. Faut-il se rendre avant que le bonheur. Ne croyez pas que je disparais, je ne parais pas. Non, je renais ailleurs qu'ici, toujours plus près. Mais que faut-il faire pour enfin devenir? Qu'il aspire à être différent, à briser ses liens, à devenir charmant. Pas question que je le condamne à se donner pour rien du tout, pour le plaisir des autres, pour le sien surtout. Se relever d'avoir marché sur les genoux quand s'éveilleront tous les hommes et les femmes. Ne croyez pas que je disparais, je ne parais pas. Non, je renais
Lucide Beausonge dans Remue Ménage, Radio Zone 93.8, et je vous propose qu'elle nous accompagne encore quelques instants avec un très beau titre, Pas dérangé.
Pas dérangé, les nuits s'oxydent, sont pleines d'acide et de rejet. Situation inchangée, viens mettre de l'ordre dans ma vie, car dans mes l'amour ne sera jamais repris ni échangé. Au rencard des objets, viens mettre de l'ombre dans mes nuits. Même s'il y est écrit, attention ne pas me déranger. Pour me sortir de cette ville et pour aller vers l'essentiel, nous sommes tous universels, du plus grand jusqu'au plus petit. Sans toi et sans avenir. Pas dérangé, des points qui cognent, des mots qui grognent un peu.